Tu veux jouer?
Allez, moi je joue.
Mais on est en plein milieu d'une campagne.
La partie n'est pas finie.
Parce que ça fait 10 heures que vous jouez.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans À quoi tu triches? Je m'appelle Lorraine et ce podcast vous est proposé par Yello, éditeur et distributeur de jeux de société. Et aujourd'hui, nous sommes en charmante compagnie, nous sommes avec Ludovic Maublanc. Salut Ludo.
Salut Lorraine.
Comment vas-tu?
Bah, très bien, malgré les apparences, parce que j'ai... pour les gens qui regardent le podcast,
vrai,
j'ai une attelle à la main droite.
Qu'est-ce que c'est que ce Beans?
Je voulais me faire remarquer, tu sais, Cannes, c'est très concurrentiel niveau hype. Théo, il a ses cheveux verts. Donc
c'est vrai qu'il a ses cheveux verts.
Puis moi, je peux pas. Voilà.
Et des paillettes et dans des la paillettes barbe.
En fait, je l'ai noté tout à l'heure, parce qu'on a croisé Théo Rivière en rentrant dans le studio, et je me suis dit, soit il transpire beaucoup. Soit il a mis des...
Oui,
en fait,
oui.
J'ai pas... Mais oui, c'est
je
des paillettes dans la barbe.
Je me suis dit, c'est bizarre okay. Ce qu'il a dans la barbe et je pense que c'est des
j'étais
paillettes.
J'étais en rendez-vous ce matin avec lui pour un projet Kaedama et je me suis dit, il sort de la douche et il est encore brillant dans le dos et là, tout à l'heure encore, donc je pense que non, ça sèche pas.
Non, c'est des paillettes, je pense.
Dingue.
C'est tout lui de mettre
voilà.
Des paillettes dans sa barbe.
Ça, c'est complètement lui. Ça m'étonne pas du tout. Tu m'aurais dit, n'importe qui au monde, il a mis des paillettes dans sa barbe, je t'aurais pas cru. Théo Rivière, 100%, je te crois. Et donc voilà, donc je me suis dit, tiens, je vais mettre une attelle à la main droite, comme ça les gens me diront,
ils vont s'inquiéter pour toi.
Voilà. Du coup, ça me permet de voir un peu les gens qui se soucient de moi.
De bonnes astuces. Voilà. On récupère les astuces, les petits tips.
N'hésitez pas.
Faites-vous remarquer.
Le prochain salon, si je vois tout le monde avec des attelles, ça ne va pas aller. Hein.
Ouais,
c'est à moi, les attelles.
C'est ça, à un voilà. Moment, trouvez-vous une personnalité. Quoi.
Exactement.
Ok, super. Voilà. Eh bien, remets-toi bien.
Ouais, non, mais ça va, je suis sur la fin. En vrai,
cet accident
fait l'accident le plus idiot de la Terre.
C'est vrai.
Je jouais en VR avec un casque de réalité virtuelle.
Oh, pétard.
Et le monde réel s'est rappelé à moi. Et j'ai donné un coup sur une table.
Écoute, cette anecdote est incroyable pour commencer cet À quoi tu triches, je trouve.
Oui.
Le mec qui se blesse en jouant à la VR, c'est incroyable.
Ouais, en fait, c'est... pas tant incroyable que ça parce que moi j'ai des casques depuis un moment, j'aime bien cet aspect-là. Je suis pas très jeu vidéo, mais la VR ça m'a toujours intéressé parce que
ouais.
En vrai moi je suis nul aux jeux vidéo. Quand j'ai une manette dans les mains, je sais jamais quoi faire et je me dis si j'ai un casque, je bouge mon corps et c'est
ouais.
j'ai pas ce problème de parce que moi quand il faut appuyer sur plus de deux
oui,
boutons.
Oui, oui.
Moi en fait ma première console c'était une Atari 2600, il y avait un stick et un bouton. Après, quand il a commencé à avoir deux boutons, ça commençait à être dur. Et maintenant, il y a des gâchettes. Les gâchettes, c'est impossible.
Ouais.
Il y a trop de choses. Et je me dis, voilà, je bouge dans le truc, c'est plus simple. Et voilà. Et donc, je suis ça depuis longtemps, la VR. Et à chaque fois, je vois dans des vidéos ou quoi, les gens disent, il y a un recrudescence de gens qui se blessent et tout ça.
Ah
je
ouais.
Dis, les gens sont débiles, c'est quand même pas.
Oh mon Dieu.
Comme quoi, ça
karma.
Arrive. C'est le karma, tout
le
à fait.
Le karma t'a rattrapé.
Donc ça, mais bon, là, j'ai fait quand même plusieurs années de VR sans me blesser. Et là, c'est la première fois.
Donc faites attention à vous.
Faites attention. Quand le casque vous dit vous sortez de votre zone, vous sortez vraiment de votre zone.
Mais du coup, tu t'es pris un de tes meubles.
Oui, je me suis cogné contre un de mes meubles en fait. Et j'ai fait un grand geste et bam, il y avait quelque chose qui a rencontré ma main. Donc voilà.
Et ça a dû te sortir du jeu. Hein.
Pas du tout, en vrai.
Non.
Alors en fait, j'étais vraiment dans le jeu et je tape et je me fais mal, mais je me dis je me suis cogné, voilà, c'est débile, mais voilà. Et je finis mon jeu et même je relance un jeu après en fait. Et je me dis quand même, j'ai mal quand j'utilise la manette. Et en fait, au moment où j'enlève mon casque, je m'aperçois que ma main elle a gonflé, qu'elle est devenue énorme.
Et oui, alors que ta main dans le jeu était normale.
Oui, voilà, tout à fait.
Donc, je pouvais pas te douter.
J'avais un peu mal quand même. Je me dis, je me suis cogné, j'ai un bleu, tu vois. Je me suis dit, c'est une bêtise.
À mort, mais il voit
pas
dans
maintenant.
Le jeu.
C'est ça. Et voilà, donc je me suis mis un pain de glace. Voilà, après je suis allé au médecin, il m'a dit vous avez rien de cassé, mais quand même, vous avez bien codé fort, quoi. Et voilà.
Purée.
Et donc, et en fait, j'ai un peu quelque chose de cassé, en fait, puisque j'ai un petit bout d'os qui a un petit éclat d'os, en fait. Donc voilà, donc je suis contraint à l'attelle pendant quelques temps, le temps que ça se recolle, j'imagine, je suis pas. Moi, je fais ce que le médecin me dit.
Ouais, oui, on fait confiance.
Je mets une attelle, voilà.
Bon,
mais voilà, ça me fait une anecdote à raconter.
Ouais, j'adore. Incroyable. Super. Donc, tu joues régulièrement?
Plus trop maintenant. Sur le casque, c'est par période, en fait. La VR, c'est assez chouette, mais tout seul, c'est un peu chiant. Mais heureusement, comme on joue en ligne, on joue souvent avec des gens. Et donc, j'ai des amis qui ont des casques aussi, donc on se connecte sur des jeux, on joue ensemble, et ça, c'est plutôt cool. Donc, ça dépend un peu des périodes de disponibilité de chacun, en fait. Donc, il y a des périodes où on joue beaucoup, il y a des périodes où on joue un peu moins, ça dépend. Mais voilà. Donc, en ce moment, on s'était bien remis sur un nouveau jeu, c'était chouette, jusqu'à l'accident.
Le
mais
drame.
Voilà, je rejouerai un petit peu plus tard. Mais c'est à peu près le seul type de jeu vidéo que je fais, en fait. Je ne suis pas très fan des jeux vidéo en général. La VR, je trouve ça chouette.
Ok.
Bah très bien, ouais, moi je connais pas trop la VR. Je sais que ça peut faire mal à la tête.
Oui, ouais, ça, alors ça rend mal à certaines personnes, effectivement. Il y a vraiment des gens qui supportent pas et c'est un peu triste de pas jouer. Et ça dépend aussi des jeux. Il y a des jeux qui me rendent malade et d'autres qui me rendent pas malade.
En vrai, j'avais testé un truc et ça avait été, mais c'est vrai que c'est étrange de réalisme. Ok, super. Bon, à part, parce que tu ne te définis pas par la telle que tu portes, Ludovic.
Non, tout à fait, c'est vrai.
Est-ce que tu peux te présenter autrement donc,
alors, je ne sais plus. Alors, j'ai beaucoup écouté ton podcast, mais ça fait longtemps. Parce que généralement, quand j'écoute un podcast, j'écoute tout. Plein d'affilés. Ouais. Donc, Ludovic Beaublanc, je suis auteur de jeux.
Ouais.
Donc, voilà, je fais habituellement plutôt du jeu de société que du jeu vidéo. Voilà, je fais des jeux depuis 20... Enfin, mon premier jeu a été publié il y a 20 ans, figure-toi.
20 ans. C'est mes 20 ans. C'était 20 ans?
Ouais, c'est mes 20 ans.
Ah, c'est les 20 ans d'Hello aussi.
Eh ben, tu vois.
C'est drôle.
On a commencé un bon temps.
Ouais, 2004.
Ouais, 2004, mon premier jeu. Mes premières publications, en fait. Donc, Monstropholies, que j'ai fait avec Christophe Bollinger, qui est sorti chez TF1 Games.
TF1 Games
à l'époque. J'étais allé dans les
sièges de TF1 et tout. Mais mec,
T'as vu, ça rigole pas. Wow. Premier jeu, bam.
Incroyable.
Et Kill Dog dans un magazine, un encart, le magazine JSP. Et le jeu allait devenir l'année d'après Cash and Guns. Qui était,
Ok, trop bien.
Voilà, c'était vraiment les tout débuts, 2004. C'est vraiment,
mais ouais, le truc avec TF1 Games, c'était commandité?
Non, alors en fait c'était un peu TF1 Games ça n'existe plus hein.
Ouais.
C'était donc il y avait une TF1 avait dit c'était décidé à lancer une branche de société pour faire notamment les adaptations de leurs jeux de télé en fait. Okay. Alors, c'était un peu ça l'idée de départ. Ouais. Mais ils avaient la volonté de faire du vrai jeu, enfin du jeu original en fait, qui soit pas des adaptations de jeux télé. Et à l'époque ils avaient fait un jeu de Roberto Fraga qui s'appelait Squad 7. Les plus anciens d'entre nous s'en souviennent peut-être. C'était un jeu vraiment à la Roberto, où on courait autour de la table. On jouait des aventuriers. On avait une bande son qui nous indiquait quoi faire à quel moment. On retournait des cartes un peu à la Jungle Speed. Ça déclenchait des réactions. On avait un pistolet à fléchette et on dégommait des ennemis. Enfin, c'était un jeu fou. Il était vraiment très très chouette ce jeu. Et c'était le premier jeu TF1 Games. Et en fait, moi à l'époque, ça faisait déjà quelques années que je créais des jeux. Des protos en fait, et il y avait un de mes protos qui était cool, qui commençait à ressembler à quelque chose, et je l'avais montré à l'époque, je l'avais emmené à Essen, c'était un des premiers Essen que je faisais, donc ça de 2002, je sais plus, et je l'avais montré à Christophe Bollinger, qui logeait avec nous dans les apparts, et il m'a dit, ouais, ton idée elle est trop chouette, mais il y a encore plein de trucs qui vont pas, et du coup on avait passé la journée du lendemain à bosser le jeu. Et donc on a amélioré ce jeu qui s'appelait Miss Monstre, et on faisait un concours de Miss avec des monstres en pâte à modeler. C'était ça l'idée originale. Voilà. Et donc, on a bossé ce jeu, on l'a bien modifié, on l'a rendu beaucoup plus familial, parce qu'on n'utilisait pas trop ce terme à l'époque, mais maintenant, on a familial, initié, expert, etc. Ouais. Donc, on était vraiment plutôt dans un jeu initié, expert, où on faisait juste des monstres en pâte à modeler. Donc, c'était un peu bizarre. Moi, ça me plaisait beaucoup.
Mais j'ai déjà vu un truc avec des monstres en pâte à modeler.
C'était peut-être celui-là à l'époque.
Bah ouais.
Et du coup, on en a refait un jeu beaucoup plus familial. Et puis après, Christophe, qui lui avait déjà plus installé dans le milieu, il avait déjà plusieurs jeux édités, Christophe Bollinger à l'époque, et du coup c'est lui qui a fait le tour des éditeurs. Je me souviens que le jeu était parti chez Ravensburger, il l'avait montré à TF1 Games, et puis quelques temps plus tard on a reçu la réponse de TF1 Games qui était chaud pour nous faire le jeu, et donc on a après retravaillé encore le jeu pour le rendre encore plus accessible et familial. Et donc le jeu d'origine, le proto d'origine n'a vraiment plus rien à voir avec ce qui est sorti. Mais c'était mon premier jeu, j'étais assez, assez chouette, assez content. Et puis TF1 Games, c'était quand même un peu un gros truc.
Ouais,
et au final, à la fois, on en a vendu beaucoup, à la fois pas beaucoup.
Ouais, j'allais te demander.
Je crois qu'on a vendu 26 000 boîtes, il me semble. Ce qui, pour TF1 Games, est nul, en fait.
Ouais.
Enfin, ils avaient des ambitions de vendre des 100 000, des 200 000 boîtes, en fait, je pense. Enfin, c'était vraiment... Et en même temps, ils démarraient, et des Squad 7, ils n'ont pas dû en vendre tant que ça non plus. Mais ils avaient vraiment cette image-là de Hasbro. En fait, pour eux, c'était le jeu de société, c'était Hasbro, c'était Mattel et tout ça. Alors qu'ils ont... C'est des ventes très honorables pour un petit éditeur, mais c'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. En fait. Et il s'avère que peu de temps après, TF1 Games a complètement arrêté de faire des jeux originaux. Et ils ont complètement disparu au moment où TF1 a racheté Dujardin. Et à ce moment-là, c'est Dujardin qui est devenu eux qui faisaient les jeux de société TF1. Quoi. TF1 Games est mort
À cause de moi.
Ouais, j'allais. J'ai failli le dire, je dis non, ça se fait pas.
Et
dire
c'est
ça.
Pas le seul que j'ai coulé.
J'adore. C'est mon objectif.
Non, pas du tout.
Incroyable. Voilà. Donc, oh,
c'était, en fait, c'était à la fois une première expérience dans le monde du jeu, puis une expérience assez différente de ce que j'ai vécu par la suite, en fait. Parce que c'était pas vraiment un éditeur classique, un circuit classique, parce que c'était. On a eu une pub TF1, j'ai eu une pub Monstre Folies. Je crois qu'elle existe encore sur YouTube, régulièrement elle repop et il y a des copains qui me la renvoient.
Je la mettrai en extrait là.
Oui, ça marche.
Monstre Folies. Le jeu le plus monstrueusement drôle. Tire tes cartes. Fais ton monstre à toute vitesse. Amuse-toi à reconnaître celui de tes copains. Vote pour le monstre le plus affreusement réussi. C'est gagné.
Monstre Folies. La course au monstre surprise.
Monstre Folies, la course aux monstres surprises, je crois, c'était le slogan.
Wow.
Bref, et donc c'était une expérience un peu spéciale. Et puis après, j'ai eu Cash and Guns avec RoboProd et on était un peu plus dans ce qu'est le jeu de société qu'on connaît.
Et c'est Cash and Guns qui t'a vraiment lancé
parce que Monstre Folies est quand même passé plutôt inaperçu pour le coup. Et Cash and Guns, dans le milieu du jeu, ça a été un des premiers jeux qui m'a fait connaître. Et à l'époque, je faisais déjà des jeux avec Bruno Catala.
Ouais.
On s'est rencontrés au tout début, en fait, avant que Bruno commence à signer des jeux. Il a signé ses premiers jeux en 2002, je crois, 2002-2003, un peu avant moi. Mais on se voyait déjà régulièrement et on a fait Mr. Jack à peu près à ce moment-là, je crois, grosso modo. Et puis après, on a commencé à faire pas mal de jeux ensemble. Et ça a un peu démarré aussi le truc. Voilà.
Et comment tu t'es mis à faire des jeux ?
Eh bien, assez naturellement, en fait. Moi, je faisais beaucoup de jeux de rôle dans la période lycée-fac, on va dire.
Ouais.
Et en fait, quand tu fais du jeu de rôle, tu fais tout toi-même, en fait. Certes, il y a des extensions, il y a des scénarios qui existent, etc. Mais la plupart du temps, tu écris toi-même tes scénarios, tu bricoles toi-même tes règles. Et donc, cette habitude-là, je l'ai prise assez vite.
Okay.
Et au final, quand je me suis plutôt mis sur le jeu de société plutôt que le jeu de rôle, parce qu'il y a eu cette période où la bande de copains, tu les vois plus trop, les gens déménagent, etc. Et remonter une équipe de gens qui se voient régulièrement, ça devient un peu plus compliqué avec la vie, les gens qui ont un travail, etc. Tu te retournes vers le jeu de société. Et le jeu de société, c'est cool. C'est un peu un retour. Parce que, évidemment, moi, je faisais des jeux de société. Enfin, toi, Cluedo,
Botplay
et compagnie. On se faisait avec les copains, on jouait assez régulièrement. Donc, c'était vraiment un retour au jeu de société. Et le fait de bricoler des règles, ça devenait naturel, en fait. Puisque je faisais déjà ça sur le jeu d'eau. Il n'y a pas de raison à faire ça sur le jeu de société. Et voilà. Et j'avais plein d'idées. Mais à l'époque, on jouait pas mal à Civilization, à Runta, tous ces gros jeux à Valon Hill, qui sont des jeux où que tu prévois 6 ou 8 heures pour ta partie, en fait. Ça va être, moi, j'ai vraiment souvenir d'avoir fait un Advanced Civilization de 12 heures. Enfin, on a attaqué le matin, voilà, on a passé 12 heures à jouer, quoi. Et c'est plutôt ces jeux-là qui me faisaient envie, en fait. Donc c'est plutôt autour de ces idées-là que je tournais.
Ok.
J'avais un copain à l'époque, en fait, David Pernaud, qui a monté depuis Olibrius, l'éditeur dijonnais.
Ouais.
À l'époque, on discutait pas mal de ça, de jeux, et on avait mis les bases d'un premier jeu de société, tous les deux. Et c'était marrant parce que c'était un jeu de gestion de ville. Enfin, une ville, voilà, il y avait des quartiers, des guildes, des machins. Et je crois que un tour de jeu, ça a duré 3 ou 4 heures. Et on avait prévu 12 tours. Donc on s'est dit, ouais, il y a un problème de calibrage, là, ça va pas être possible de jouer tant d'heures à ce jeu, c'est pas possible. Donc on avait vraiment un côté gros truc, énorme, tentaculaire, qui part dans tous les sens. Et c'est quand j'ai joué la première fois au Colon de Catane. Donc c'était en 1995, je crois, où je me suis dit, waouh, en fait, parce que en fait, quand tu joues beaucoup à Civilization, notamment, parce que Colon de Catane, c'est un peu un descendant de Civilization, quand tu joues à Civilization et Colon de Catane, tu fais, en fait, je fais pareil, mais en une heure et demie.
Ouais.
C'est dingue, en fait. Et là, t'as ce truc qui te frappe, c'est que ce qui est important, c'est l'expérience de jeu. Et en fait, il n'y a pas besoin de mettre un milliard de trucs pour vivre un truc. Des fois, les 3-4 bonnes mécaniques de jeu, elles suffisent à te faire vivre l'histoire que tu veux faire vivre. Et là, ça m'a vraiment ouvert les yeux.
Ça t'a fait un twist.
Et là, du coup, toutes mes idées qui étaient des trucs qui mangent, je me suis dit, mais non, mais on réduit tout ça, en fait.
Okay.
Et là, j'ai cool, regardé les jeux d'un autre œil.
Ouais.
Et là, j'ai commencé vraiment à bricoler des jeux et tout ça. Et c'était un peu avant 2000, on va dire, les toutes premières ébauches d'idées. Et puis c'est vraiment vers, on va dire 2001-2002 que j'ai commencé vraiment à me dire, ok, j'aime bien faire ça, j'aime bien dessiner, donc je fais mes cartes, j'aime bien faire les trucs et j'ai envie de faire des jeux, en fait.
Et t'as osé les présenter aussi.
En fait, c'est à l'époque où t'avais
bah, t'avais les débuts de Tric-Trac, t'avais Ankou, ça existait à l'époque, c'était un forum. Enfin, y avait, les gens discutaient pas mal entre eux, en fait. Et donc, ce côté émulation, il a commencé à exister dans l'Internet. Et les gens montraient leurs poteaux, en fait. Enfin, tu vois, discutais de leurs poteaux. Donc, c'était pas un truc honteux que tu fais dans ton coin et t'oses pas trop. Ouais. Enfin, il y avait un côté... on se montre, on est tous un peu copains, toi, on est dans un tout petit milieu, on peut se montrer des trucs. Moi, j'ai...
Oui, ça a suivi logiquement.
Ça a suivi un cours assez naturel, en fait. J'ai rencontré des gens comme ça. Adrien Martino, qui aujourd'hui travaille chez Days of Wonder, on s'est rencontrés comme ça, fan de jeu.
Ouais.
Il m'a dit, bah, tiens, nous, on va à Essen avec les copains, tu viens ? Trop. Donc, je viens avec Essen, je rencontre Thomas Provost et Cédric Comon qui vont monter au Pop-Pop 3 ans plus tard. Je leur montre mes protos. Enfin, voilà, donc ça s'est vraiment créé comme ça.
Oui, tu t'es rentré dans le milieu, naturellement.
Ouais, au moment où ça se crée.
Ouais,
en fait.
C'est ça.
Donc, les copains.
T'as créé le milieu aussi.
Bah, j'ai créé. Bah, j'étais là au moment où ça, ça bouillonnait. Et, tu vois, il y avait quelques. Enfin, toi, il y avait Bruno Fedutti, il y avait Serge Laget, qui étaient les grands auteurs installés, on va dire, mais ils étaient deux, trois, tu vois. Bah, il y avait Philippe Despalières qui était aussi là déjà. Et les petits jeunes qui arrivaient, en fait, qui allaient commencer à créer ce milieu, comme Robo Prod, Days of Wonder, ça démarrait, en fait.
Ouais.
Voilà. Et c'est marrant parce que de se dire que. Bah, des fois, je retrouve des photos de l'époque où on est sur le. On mange un sandwich sur le parking d'autoroute, puis je fais, ah bah ça c'est Cyril Distari, c'est les gens qui ont émergé de ce truc-là. Et du coup, il n'y avait pas ce côté intimidant de je monte mes protos à des éditeurs que je ne connais pas, c'est je monte mes protos à mes copains en fait.
Ouais, c'est
puis,
ça.
Des fois ça clique, des fois ça clique pas. Voilà.
Trop bien. Et du coup, tu as vu tout ce monde grandir.
C'est ça, ouais, tout à fait. Et,
qu'est-ce que t'en dis?
Ben, j'en dis que c'est devenu énorme quand même. Mais malgré tout, ça
grandit
toujours.
T'aurais pas parié là-dessus ?
Bah, je sais pas. Si, enfin, ça se sentait en fait que ça devenait quelque chose. Tout ce petit milieu en fait. Donc non, c'est très chouette. Et quand on parle de cette expérience-là aux jeunes auteurs, y a un petit côté ah ouais, mais c'est facile. Vous étiez là au début, mais en vrai, le milieu il continue d'évoluer.
Oui.
Les éditeurs continuent d'apparaître, continuent de se créer. Les passionnés continuent à être là. Donc faut juste être là et participer au truc en fait.
Ouais. Oui, c'est relativement accessible encore aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Même si il commence à y avoir des grosses boîtes, il commence à y avoir des grosses structures, malgré tout, on est quand même encore toujours dans un milieu de passionnés, de gens qui aiment ce qu'ils font et qui sont toujours accueillants en fait.
Oui, et puis il y a plein d'opportunités, je pense, pour faire évoluer un proto, pour le présenter.
Ouais. Mais là, on a fait ce matin pour les gens qui avaient donc on est à 4 qui avaient le pass Suquet, c'était les auteurs débutants, on va dire, quelques protos, mais pas encore de jeux édités. Ils avaient après-midi, parce qu'elle commençait à 13h, ils avaient une série de conférences qui leur expliquaient un peu le milieu, comment ça fonctionne, etc.
Ah ouais.
Et nous, on terminait avec Kaedama sur une intervention de game design. Et voilà, et en fait, le simple fait de se réunir entre eux, c'est plein d'auteurs débutants qui ne se connaissent pas forcément, mais qui vont peut-être créer des liens, qui vont nouer des amitiés, commencer à travailler ensemble. Et peut-être que parmi eux, il y en a qui vont devenir éditeurs, qui ne sont pas auteurs. Ça va continuer, en fait, tout ça.
Ouais, pareil, il y a beaucoup de concours de proto dans beaucoup de festivals qui permettent aussi de faire rencontrer des auteurs entre eux et aussi de faire rencontrer les auteurs avec des gens du milieu pour les accompagner.
C'est important parce qu'on a un peu des fois de l'extérieur cette image de l'auteur tout seul qui crée son truc, qui a son imaginaire et qui crée son jeu. La vérité, c'est qu'on est souvent en duo. Et que c'est beaucoup des idées qui rebondissent, en fait. Et j'aurais pas fait autant de jeux si, avec Bruno, on n'avait pas traîné ensemble et fait Mr. Jack. L'expérience était cool. On a super bien fonctionné ensemble. Et on a directement enchaîné sur un autre jeu. Et on en a fait plein comme ça, en fait.
Tu travailles beaucoup en co-autorat.
Moi, la plupart de mes jeux, on les a créés la plupart du temps. Il y a deux ou trois exceptions, peut-être un ou deux, je ne sais plus, deux, trois jeux que j'ai fait tout seul. Mais
ça sera.
C'était typiquement des jeux dont l'idée a marché du premier coup, en fait. Cash and Gun, c'est un jeu que j'ai fait tout seul. J'ai eu l'idée, j'ai fait le proto, ça a marché. Évidemment, il y a eu des réglages et des choses à faire évoluer, mais le jeu en lui-même, il existait déjà, en fait. Mais la plupart du temps, c'est pas, t'as une idée et l'idée, elle ne fait pas un jeu, souvent. C'est chouette d'avoir une idée, c'est vraiment la première pierre, il faut avoir l'idée de départ, mais ça ne fait pas un jeu. Il faut beaucoup travailler, beaucoup réfléchir là-dessus, et réfléchir à deux, c'est beaucoup plus confortable. C'est des échanges, et Et un jeu, c'est souvent beaucoup de moments de découragement, de bah ça marche pas, c'est nul, voilà. Et prendre le relais comme ça à deux, c'est vachement plus confortable. Tu doutes toujours quand tu crées un jeu, mais douter à deux, bah toujours un qui doute moins que l'autre et qui entraîne le truc, voilà. Et puis bah des fois on fait un truc à deux et ça n'aboutit à rien, enfin, oui. Ça arrive. C'est pareil quand on a vu les auteurs débutants, c'est pas péjoratif en fait.
Ouais,
hier matin. Et ils avaient vraiment l'idée de « j'ai fait mon proto, je le montre à un éditeur, il est édité ». Et en fait, ouais. C'est pas ça, c'est « je fais un proto, il est nul, j'en fais un autre, il est nul, j'en refais un autre, il est un peu mieux, et là, après, je fais un truc qui ressemble à quelque chose et je le... » En fait, tu rates énormément avant de faire des trucs cool, en fait. À l'époque, je numérotais tous mes protos. Je dis, voilà, celui-là, je l'ai fait tel mois, telle année, machin truc. Et j'ai vraiment eu une frénésie de « j'en fais un par mois, j'en fais deux par mois, et dans ce bouillon de trucs, il y avait 20 jeux, il y avait un bon truc qui est sorti.
Ouais,
Cash and Guns, il est sorti d'un bouillon de trucs avec plein d'idées qui sont pas abouties, pas bien, pas suffisantes. Et il y avait ce petit truc qui est sorti et qui est devenu un vrai jeu. Donc c'est, s'il y avait des conseils à donner aux jeunes auteurs, c'est que vraiment vous allez rater plein de fois, il faut rater plein de fois. En fait.
Ouais.
Le fantasme de j'ai une idée, elle est géniale,
ouais.
Elle fonctionne et je la fais éditer tout de suite, bah, c'est un sur un million.
Et tu conseillerais aussi de se faire de rencontrer d'autres personnes et peut-être de co-créer.
Mais, alors ça dépend vraiment des gens. Tu vois, il y a vraiment des auteurs qui sont dans leur truc et qui ont pas besoin en fait de cet échange-là. Et d'autres pour qui c'est indispensable, c'est vraiment très personnel. En fait,
ouais, bien sûr.
Mais c'est jamais perdu de discuter de ces jeux, de discuter de ces idées avec des gens et de trouver la bonne personne en fait.
Et pour toi, dans cette dynamique, j'imagine que c'est dans cette dynamique-là de travail que tu as co-créé Kedama.
Il y a un peu cette idée-là. En fait, il y a eu une période où on a commencé à me demander de bosser en développement sur des jeux.
Ouais.
Notamment, j'ai fait Meeple Circus.
Des commandes.
Pour Matago. Ouais. Tu vois, Matago, ils avaient Meeple Circus, c'était pas fini. Ils n'arrivaient pas à arriver au bout de ce truc et Hicham un jour m'a dit ça te dirait pas d'essayer de le faire en développement et tout. Donc là j'ai contacté l'auteur du jeu, on a bossé ensemble sur le jeu et on a fait la version qui est sortie plus tard, Meeple Circus. Et après je me suis dit c'est des choses qui c'est des besoins que les éditeurs ont en fait parfois et c'était ce moment là où Théo voulait partir de Robot Prod et il s'est dit ça pourrait être un truc que je pourrais faire aussi, enfin tu vois, et on s'est dit pourquoi on le fait pas tous ensemble. Et comme ça on fait un truc à quatre, on était les quatre au Japon à l'époque, c'était un de nos voyages quand on allait au Tokyo Game Market, et on s'est dit on monte une structure on répondra aux attentes des éditeurs en fait. Donc soit pour du développement comme on l'avait déjà fait, soit pour du jeu de commande sur une licence particulière, etc. Et c'était l'idée de on est tous les quatre, on bosse les uns avec les autres, mais moi je bosse une fois avec Corentin, une fois avec Théo, une fois avec Antoine, etc. Ouais. Là, du coup, pourquoi on ferait pas tous tout ensemble, en fait.
Et
c'est né comme ça, en fait, de se dire, allez, on se lance et puis on propose ce service-là, en fait.
Et la cafetière, toi, tu bosses beaucoup à la cafetière.
Alors la cafetière, de l'extérieur, on mixe toujours un peu la cafetière et Kaedama.
Ouais.
Alors c'est un peu différent, mais...
Oui, parce qu'il y a d'autres auteurs qui ne sont pas dans Kaedama, qui viennent à la cafetière.
Dans Kaedama, lui, il n'est pas à la cafetière.
Oui, bien sûr.
En fait, la cafetière, c'est un lieu, c'est un atelier, de coworking, qui a été créé par Antoine Bozard, il y a 10 ans, en fait, puisqu'on fait les 10 ans de la cafetière cette année. Décidément, c'est une année d'anniversaire.
Dis donc.
C'est les 10 ans de la cafetière. En fait, à un moment donné, Antoine, il bossait chez lui avec sa femme, donc qui est coloriste de BD.
Oh,
et ils avaient chacun leur bureau séparé, etc. Et ils bossaient à la maison, en fait. Donc, il y a ce côté où t'es chez toi et tu bosses et tu n'es jamais vraiment au boulot, mais jamais vraiment chez toi.
Ouais.
Et il y a cette idée qui a germé de se dire, est-ce qu'on ne se prend pas un local pour bosser à l'extérieur de la maison. Et en discutant un peu tous ensemble, il s'est dit, mais peut-être que ça intéresserait d'autres gens. Et donc, au lieu de prendre un petit truc que pour tous les deux, on prend quelque chose de plus grand, puis on invite d'autres auteurs, etc. Et c'était à l'époque où moi je commençais à faire pas mal de jeux.
Ouais.
Il y avait également Corentin qui a commencé à sortir ses premiers jeux à ce moment-là, qui habitait Valence également.
Oui.
Moi j'étais pas à Valence, mais je suis à Dijon et je descendais assez régulièrement à Valence avec le train. Il y avait Ludovic Gaillard à l'époque aussi qui habite toujours Valence mais qui fait beaucoup moins de jeux qu'à l'époque, qui avait signé ses premiers jeux. Donc on s'est dit, il y a quand même un petit vivier, puis le Catala il est pas si loin, il a 2 heures de route.
Ouais.
Donc, voilà, c'est
un bon endroit,
c'est
Valence.
Ça, ouais. Donc on a voilà, donc Antoine a fait ça, il a créé la cafetière, il a acheté ce local qui est un ancien bistrot en fait, qui était réhabilité en appartement.
Est-ce qu'il y a un bar?
C'était un bar avant.
Il y a un bar. Ouais, il y a un vrai bar. Incroyable.
Et du coup voilà, donc on s'est installé là et puis voilà, donc ça fait déjà 10 ans maintenant. Et au fil du temps, bah, Corentin a lâché son boulot parce qu'il était encore à l'époque chimiste, il bossait en labo. Et quelques années plus tard, il a dit ok, bah, allez, je lâche avec Kaidama notamment, parce que c'était aussi ça un peu l'idée de Kaidama.
Oui, de
parce que quand tu veux faire auteur professionnel, c'est compliqué en fait. Il y a très peu d'auteurs professionnels parce que tu es payé en droit d'auteur sur tes ventes. Les droits d'auteur, c'est pas des milliers, des cent, enfin, c'est pas des grosses sommes. Faut soit tu aies un énorme succès à la Seven Wonders, un habit qu'Antoine a la chance d'avoir.
Rapport tous les ans, beaucoup. Voilà. Moi, soit j'ai beaucoup de jeux.
Beaucoup de jeux, voilà. Moi, j'ai fait pas mal de jeux avec Bruno. Et on avait Mister Jack. Il y avait Mister Jack qui est un long-seller, qui est installé depuis longtemps. Il y a Cash and Gun. Enfin, il y a des choses comme ça. Donc, moi, à un moment donné, j'avais aussi je faisais un boulot à mi-temps à côté, en fait. Donc, j'avais un petit mi-temps plus mes jeux. Et ça fonctionnait très bien comme ça. Je descendais régulièrement à la cafetière. Et puis, à un moment donné, ça a commencé à être compliqué de gérer la cafetière, le mi-temps, le machin. Et mes jeux me rapportaient assez pour que je me dise, OK, je lâche mon mi-temps. C'était aussi l'avantage d'avoir un mi-temps, c'est que c'est pas non plus une grosse somme d'argent. C'est une petite sécurité, quoi. Mais tu peux te dire, OK, je la lâche, c'est pas tant que ça, en fait.
Et Kaidama, ça vous apporte une stabilité.
En fait, l'idée, c'était aussi de se dire, Théo, il lâche son boulot. Corentin, il aimerait bien lâcher son boulot plus tard. Moi, je lâche mon boulot aussi. On a au moins cette structure-là qui existe et qui récupérera, enfin qui va avoir des sous des jeux qu'on va créer ensemble. Okay. Donc ça nous faisait un petit filet de sécurité aussi supplémentaire. Donc voilà, donc au fil du temps, bah, la cafetière, c'est Corentin est venu à plein temps. Moi, je suis venu un peu plus régulièrement à la cafetière aussi, n'ayant plus mon boulot à côté. Au lieu de venir une semaine pendant les vacances, etc., je reste plutôt 15 jours, 3 semaines, 1 mois à Valence. Ça a commencé à se créer comme ça. On a eu d'autres auteurs du coup de Valence, y a notamment Ludovic Gaillard qui venait un peu plus régulièrement mais qui a un peu lâché le jeu de société. Mais on a Jonathan Favre-Godal qui est l'auteur de Kikafé, qui est son jeu le plus connu, qui est lui aussi de Valence, qui est venu régulièrement et qui vient régulièrement, qui a son petit bureau. Et là on a Baptiste Laurent et Gauthier de Cotreau qui sont deux jeunes auteurs qui ont signé leur premier jeu là, qui arrivent et qui viennent régulièrement à la cafetière et qui ont leur petit bureau maintenant aussi.
Et ça vous permet d'échanger, même si vous ne faites pas forcément des projets en commun, vous apportez...
En fait, il y a vraiment cette ambiance de coworking.
Ouais.
Et tu vois, typiquement, là, j'ai montré un proto à un éditeur tout à l'heure. Puis il m'a dit, ah, c'est marrant, ton proto, il ressemble vachement à celui de Gauthier. Puis en fait, on bosse avec le même matériel, on a les mêmes.
Ah oui,
en fait,
physiquement.
On met en commun, on a les. Toi, on a la même.
Oui, oui, bah ouais, c'est même, pratique, vous avez des outils aussi.
C'est ça, on met tout en commun. Et puis, tu vois, on leur apprend. Tu vois, on dit, coupe pas comme ça, fais attention, fais tel truc. Et on se file des tips comme ça.
Trop bien.
Pour la fabrication de proto. Et puis pour les tests, même si on ne bosse pas,
pas des protos les uns avec les autres,
On a toujours des gens sous la main pour tester.
Voilà, c'est ça.
Tu vois, je fais un call avec Bruno, qui est là, on discute d'un projet, on fait le proto, je dis, j'ai besoin de quelqu'un pour tester un truc, bam, on se pose, on bosse direct, en fait.
C'est vraiment chouette. C'est vraiment très chouette. Grave. Trop bien.
C'est un bon endroit, la cafetière.
Bon, j'aimerais savoir, c'est quoi tes premiers souvenirs de jeu quand tu étais petit enfant?
Ouais, je crois que premier souvenir de jeu, ça doit être un Monopoly avec les voisins, quand j'étais gamin. Et c'est marrant parce que je pense, on n'a jamais joué avec les bonnes règles, évidemment, comme tout le monde. Et c'est vraiment des règles. Monopoly règle orale, quoi. Donc, avec le parc gratuit qui permet de récupérer des sous au centre, ça n'existe pas.
Oui, mais on l'a tous fait.
Moi, j'ai rejoué au Monopoly il y a quelques années, enfin, plus récemment, mais c'est encore il y a longtemps malgré tout. Mais
t'as joué avec les vraies règles? Qu'est-ce que t'en as pensé?
Alors déjà, c'est moins nul que ce qu'on imagine. C'est beaucoup plus court aussi que ce qu'on imagine aussi. En vrai, le Monopoly, c'est un jeu d'enchères, en fait, que personne ne joue parce que en fait, on avance, on arrive sur une rue, elle appartient à personne, je l'achète, je l'achète pas. Ouais. C'est un peu comme ça que les gens jouent. Sauf que si je l'achète pas, elle est mise aux enchères. Et tu peux du coup l'acheter moins cher que ce qui est marqué sur la tuile. Donc il y a des trucs, il y a des petites astuces. Et puis en vrai, tu fais 3-4 tours de plateau et le jeu est fini, en fait. Donc il n'y a pas ce côté perpétuel de ça dure.
Alors ça dure. C'est vrai que ça a duré une infinité de temps.
Mais il y a plein de choses qui vont pas, mais en vrai, c'est moins nul que l'image qu'on a en tête. Il faut y rejouer avec les vraies règles, parce que les vraies règles...
Ah, finalement, les règles, c'est important quand même.
Ouais, c'est Donc, c'est des trucs comme ça. Je me souviens vraiment avoir réclamé à corps et à cri à ma mère de m'acheter le Cluedo.
Ah ouais.
Et donc là, après, je voulais jouer au Cluedo tous les soirs. Voilà, donc c'est vraiment des trucs comme ça. Et j'ai vraiment souvenir aussi Et j'y repensais vraiment, je m'en souvenais plus en fait, mais j'avais vraiment commencé à faire des jeux à l'époque. J'avais je sais pas, est-ce que c'est 10-12 ans, un truc comme ça
Ouais.
Où j'avais fait, ouais, dans 12 ans, on va dire, où je m'étais dit vraiment l'erreur de base du game designer débutant, c'est que je vais mettre tout dans un jeu et ça va être le meilleur jeu du monde.
Ah oui.
Tu vois, typiquement, j'ai fait un jeu d'échecs avec deux fois plus de tuiles, okay, avec des archers qui tirent à distance.
Oui.
C'est au sens. Et, ben, voilà. Et j'avais fait un jeu à la Monopoly, où j'avais mis tous les éléments du Monopoly, tous les éléments de la bonne paye, tous les éléments du flambeur, tous les jeux que je connaissais, j'avais tout mis dedans, en me disant, bah, s'il y a tout, c'est que ça va être génial.
Bah oui.
Et effectivement, plus tard, on apprend que s'il y a tout, c'est le dernier. C'est naze. Et, et au contraire, c'est quand t'enlèves des choses que tu as fini ton jeu.
Les purs.
Ouais, c'est très important. Mais ça, quand t'as 12 ans, tu fais, waouh, je veux tout mettre.
C'est drôle. Donc, et tu les faisais jouer
Je suis même pas sûr de les avoir fait jouer un jour, ces trucs-là.
Tu testais des trucs tout seul, quoi, dans ta chambre.
Je faisais des trucs. J'ai plutôt fabriqué le matériel que vraiment y jouer.
Ouais.
Voilà.
Mais il y avait le côté créatif autour du jeu,
ouais,
quoi.
C'est ça.
C'est drôle.
J'avais vraiment envie de faire ça. Et puis, effectivement, après, je me suis vraiment tourné vers le jeu de rôle et le jeu de société, c'est un peu passé à la trappe.
Donc, pendant ton adolescence
Ouais. Et du coup, cet aspect-là, création, etc., je l'ai plutôt focus sur le jeu de rôle, sur l'écriture de scénario, les règles de jeu, etc. Et du coup, ouais, des jeux de rôle, j'en ai inventé plein dans ma tête. Des mécaniques de jeu, des univers,
Et le jeu de rôle. Et t'as jamais écrit de jeu de rôle
Alors, oui et non. En fait, on a fait récemment un jeu de rôle avec Kaedama.
Que t'aurais
en fait
vendu.
Non, j'ai jamais rien écrit. J'ai écrit des bouts de trucs, en fait. J'ai écrit des univers, écrit des mécaniques de jeu.
Ouais.
C'est vraiment ce qui m'intéressait assez, c'était la mécanique de jeu. Mais c'est pareil, okay, typiquement, on jouait beaucoup au... attends, c'était quoi à l'époque? C'était l'appel de Cthulhu et Stormbringer, etc. C'était le système Chaosium, en fait, avec des dessins que j'aimais beaucoup. Et il y avait vraiment ce côté, plus ça simule, mieux c'est. Et j'avais encore, j'ai rien appris de mes erreurs, en fait. Plus ça simule, mieux c'est. Non, en vrai, plus ça simule, plus c'est chiant, en fait. Parce qu'il y avait, tu vois, typiquement, un tableau pour savoir si je me fais frapper exactement à quel endroit du corps je reçois ma blessure, qu'est-ce que ça impacte sur quel truc.
Ouais.
En vrai, on s'en fiche. L'important, c'est qu'on vit une histoire.
Et
c'est ça qui est amusant. La technique, c'est super chiant, on s'en fout. Mais, tu vois, je suis vraiment passé par cette étape-là.
Mais c'est les étapes qu'il fallait passer
c'est
pour...
C'est ça, exactement. Mais du coup, non, le jeu de rôle, j'en ai jamais vraiment fait pour de vrai. Et là, récemment, on en a fait un pour Kaedama. C'est rigolo parce qu'on a été contacté par un webtoon qui s'appelle Mon vol plus sincère. Et c'est une BD que tu lis sur ton téléphone. Et il voulait un jeu de rôle dans cet univers-là. Et on a fait ça avec Antoine et Théo. Et c'était vraiment très, très cool.
Ouais, ça a dû te plaire.
C'était assez chouette. Parce que Antoine et Théo, ils ont beaucoup plus l'habitude d'écrire du jeu de rôle. Mm-hmm. Donc, ils ont vraiment lancé les premiers trucs. Et c'était assez facile pour eux. Moi, je me serais perdu. J'aurais pas su par quoi commencer.
Ouais.
Et voilà. Et donc, du coup, ça m'a permis juste d'apporter des petits éléments de game design et d'écrire le scénario d'intro du jeu. Donc, c'était vraiment chouette à faire. C'était vraiment la première fois que je faisais vraiment du jeu de rôle pour de vrai.
Cool.
30 ans plus tard,
ça fait plus de 10 mètres. Ouais, c'est drôle, parce que si c'était tes premiers amours.
Ouais, c'est ça. Et ouais, donc c'est ça, les premiers jeux, c'est les jeux classiques. Hein. J'ai vraiment des souvenirs d'avoir joué à Hotel, d'avoir joué à tous ces jeux-là, le Flambeur, tous les jeux MB.
Et tu jouais en famille
Plutôt avec les copains, en fait. En famille, comme je disais, je forçais un peu plus tôt ma mère à jouer au Cluedo ou tout ça. Et en plus, ça ne joue pas à deux, le Cluedo. Le système ne marche pas à deux.
Ouais.
Il fallait que ma sœur joue avec nous. Donc, c'était compliqué d'imposer à tout le monde de faire du jeu de société. Non, c'était plutôt avec les copains du lycée, en fait. Voilà, et on faisait des mercredis après-midi, on faisait du jeu de société.
Ah.
Et qui est devenu des mercredis après-midi, on fait du jeu de rôle à partir du moment où on a découvert le jeu de rôle. Et où ça a été vraiment l'illumination pour tout le groupe, en fait. On s'est dit, oh, c'est génial. Donc, on a vraiment, du jour au lendemain, laissé tomber le jeu de société pour faire plus que du jeu.
Et du coup, quand est-ce que tu es revenu au jeu de société? Est-ce que tu te souviens
C'était vraiment
d'un twist
la fin de la fac, en fait. C'était vraiment ce moment où on a un groupe de joueurs et il y en a un qui part faire ses études plus loin, il y en a un qui a plus le temps parce qu'il a trouvé un vrai travail. Donc il y a vraiment ce côté où on n'a plus le temps de faire des jeux de rôle, enfin, plus le temps de s'organiser, plus la motive de passer des heures à écrire des scénarios pour finalement on va se voir une fois tous les 6 mois. Et il arrivait et se dire maintenant on va plutôt faire du jeu de société. Et puis après, ce déclic avec les colons de Catane qui étaient...
Ouais, c'était Catane, le déclic.
C'était ce moment-là, en 95, où vraiment, là, je me suis mis à fond dans le jeu de société, en fait.
Et donc, à partir de ce moment-là, t'as beaucoup joué.
Ouais,
Et tu t'es mis à créer, genre 5 ans plus tard, quoi.
Ouais, parce que le truc, c'est que donc, je découvre les commandes Catan et les jeux allemands, surtout, en fait.
Ouais.
Parce que les commandes Catan, ça a été vraiment... En fait, il y a eu, je crois qu'il y a eu Manhattan, qui était un spiel aussi, mm-hmm. un peu avant, qui était édité par Ludo Delire en France. Et il y avait vraiment ce côté, mais attends, en Allemagne, il y a plein de trucs
ouais.
qu'on n'a pas, nous. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à ça, mais il n'y avait pas Internet et tout ça, à l'époque, il faut imaginer. J'avais comment j'ai trouvé ça ? En fait, j'avais trouvé Oya, donc, qui existe ouais. toujours, en fait, qui ouais. est la petite parisienne qui est un barrageux et une boutique et maintenant éditeur, un éditeur aussi, ouais, un distributeur. Ouais, ouais. Donc je sais plus comment je suis tombé là-dessus, mais j'ai découvert Oya. Et donc mmh. son catalogue qui était vraiment des fiches imprimées, voilà, enfin sans images, sans rien, et donc tu avais juste un texte. Et je me souviens vraiment avoir épluché ce catalogue en découvrant Rainer Knizia, Klaus Teuber, des noms comme mmh. ça. Et ouais, et donc il y avait tout ça. Et du coup j'ai acheté mon premier jeu allemand comme ça. Par correspondance, c'était un Klaus Teuber, c'est Drunter und Drüber. Qui a gagné le Spiel, je crois, d'ailleurs. C'est un jeu du Spiel qui est toujours chouette, en fait, qui marche toujours bien. Et plus tard, et quelques années plus tard, genre, ouais, un an ou deux après, je suis allé à Paris, j'ai eu l'occasion d'aller à Paris, donc je suis allé à Oya.
Okay.
C'était magique, en fait, il y avait des boîtes de jeux partout, avec plein d'auteurs allemands, tout, c'était tout fou. en fait, le moment où j'ai découvert les jeux à l'allemande, on va dire, je me suis dit, mais ouais, en fait, c'est ça qu'il faut faire, en fait, c'est ces jeux-là qui sont...
Okay.
Et donc, j'ai vraiment eu cette période de trouver des imports de jeux allemands, etc. Et c'était encore difficile à trouver. Et puis il y a eu ce moment où avec David Pernaud, Olibrius maintenant, et avec qui j'avais commencé à essayer de faire des jeux à une époque.
Vous étiez dans la même ville.
Ouais, on était à Dijon en fait. Moi, je suis à Dijon. J'ai fait mes études là-bas et j'y suis encore plus ou moins, mais en temps partagé avec Valence en fait, Valence Dijon.
Ouais.
Et donc je le perds de vue parce que les études, voilà, il part faire ses études. Je le perds de vue pendant des années. Et il revient à Dijon. Et donc fin 98-99. Et donc il revient à Dijon, on se revoit, on fait des jeux, etc. Et on se dit, attends, on ne montrait pas une boutique en fait.
Ah.
Parce qu'il y a eu toujours cette idée, mais on l'avait déjà eu il y a 10 ans en avant, en disant, ah, montrer une boutique, ce serait cool. Et là, c'était les débuts d'Internet. Et on se dit, mais en fait, on monte une boutique en ligne, ça n'existe pas en France. Il y avait un ou deux sites américains qui faisaient ça, tu pouvais acheter tes jeux en ligne. Mais tu vois, c'était toujours par correspondance en fait. Tu pouvais toujours. Tu avais des. À l'époque, dans Casus Belli, tu avais une fiche où tu pouvais commander par correspondance au temple du jeu à Nantes, ou ce genre de choses. Mais sur Internet, ça n'existait pas, en fait. Donc on s'est dit, bah, ok, on monte ça, en fait. Donc on a créé, avec un troisième larron, on a créé Jocade, en fait. En se disant, on sera les premiers à faire de la vente sur Internet de jeux de société. Et donc, 3 mois avant qu'on lance la boîte, il y a un site qui se crée qui s'appelle Ludinet. Ça s'appelait Ludinet, ça n'existe plus. Qui est le premier jeu qui vend des jeux,
le premier site qui vend des jeux sur Internet.
Ouais. Donc on s'est dit, on n'est pas les premiers.
Ouais.
Et en plus, ils cassent les prix. Donc c'était vraiment dur, en fait.
Ah.
C'est qu'on s'était dit, on va vendre légèrement moins cher qu'en boutique. C'est mm-hmm. le tarif VPC, en fait. Et il s'avère que notre concurrent, qui déboule de nulle part, qu'on n'a pas vu venir, il vend encore moins cher que ce que nous, on avait prévu. Donc on s'est dit, waouh, ça va être dur. Mais bref, on a cette expérience-là de créer cette boutique, donc de vente en ligne. Et à l'époque, on se fournit chez Oya, on fait de l'import de jeux allemands. Et Fred Bizet aussi, qui est éditeur maintenant, il faisait de l'import aussi de jeux allemands. Donc on passe par lui aussi pour avoir des jeux allemands. On fait des trades. Enfin, voilà,
oui, j'allais dire, vous localisez un petit peu.
En fait, on avait les traductions en anglais. Souvent, les règles en anglais existaient, mais il n'y avait pas les règles en français, donc on traduisait à partir de l'anglais.
Très bien.
Et donc on a fait ça. C'était vraiment les tout débuts. En fait, les premiers jeux allemands, t'avais une boîte 100% allemand, et derrière le film, il y avait une petite fiche.
Une feuille imprimée. Ouais,
Et donc, nous, on en a fait pas mal avec Jocade. Il y a Rixou, à l'époque, il en faisait. Enfin, il y a vraiment cette petite communauté. On revient à cette histoire des tout débuts d'Internet, où on a vraiment les premiers forums, les premiers groupes. On dit, il y a tel jeu qui est sorti en Allemagne qui est génial. J'ai fait la trad. Ouais. Ça circule comme ça. Et ce moment-là, ça m'a permis de découvrir plein de jeux. Et comme on a créé Jocade, c'est de la VPC, on n'avait pas de stock au début, en fait. On faisait notre stock avec les premières commandes. Donc les gens commandaient tel jeu, on en prenait plus. Et puis on se faisait notre petit stock. Et moi, du coup, ça m'a permis de découvrir plein de jeux, d'en acheter plein. Donc là, j'ai acheté plein de jeux à l'époque. de découvrir tous les jeux allemands, découvrir Rainer Knizia, Klaus Teuber, Wolfgang Kramer, tous les auteurs allemands. C'est vraiment début 2000 que j'ai découvert ce vivier-là de jeux d'auteurs et tout ça. Le Spiel des Jahres, on ne connaissait pas.
Ouais.
Vraiment, on a commencé à mettre le nez là-dedans.
Et tu t'es nourri de tout ça, vraiment.
J'ai vraiment absorbé tous ces trucs. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à me dire, ok, j'ai envie de faire des jeux aussi. Et que j'ai commencé à faire mes premiers protos.
Ok.
Qui étaient nuls, évidemment.
Et en 2004, tu as sorti ton premier jeu.
Voilà. Donc, en 2002-2003, je commence à avoir des protos corrects et je commence à bosser avec des auteurs. Et voilà, et 2004, vraiment le premier jeu qui sort en boutique. Et c'était marrant parce qu'à l'époque, je bossais chez Toys R Us, qui n'existe plus non plus. Décidément, en fait, l'interview, c'est beaucoup.
Oh mon Dieu, on découvre que tu es. Tu portes la poisse. Bientôt, Aquatutriche va disparaître.
Alors, je suis parti de Toys R Us avant que ça coule. Donc, c'est pas moi.
C'est pas toi. Bref. Bah, ils ont coulé parce que t'étais plus là, en fait.
Mais ouais, c'est ça. Mais oui, c'est moi qui tenais là. Donc, j'étais au magasin, au rayon jeux de société, et j'avais mon jeu de société dedans. En fait, c'était un peu la classe.
Oh, purée.
Je sais pas pourquoi je raconte ça. J'ai perdu dans mes anecdotes. Et donc, ouais, 2004, c'est mes premiers jeux qui sortent, en fait. Voilà. Et là où je me dis, ouais, je vais essayer de faire ça, c'est chouette. Et puis, vraiment, j'ai eu la chance de pouvoir avoir quasiment tous les ans un jeu qui sort, en fait. Voilà, ça s'est jamais arrêté jusqu'à maintenant. Tous les ans, j'ai eu un jeu qui sortait,
des nouveautés.
Deux jeux, trois jeux. J'ai eu une année avec 10 jeux qui sortaient. C'est lancé, quoi.
Est-ce que tu crées des jeux auxquels tu as envie de jouer?
Ah oui, ouais, carrément, c'est vraiment
le premier point de départ,
carrément. C'est soit des jeux que j'ai envie de jouer moi, soit quelque chose qui naît d'une discussion, en fait. Mm-hmm. Comme je fais beaucoup de jeux à deux. Des fois, c'est juste on discute et on se dit « Ah tiens, ça serait cool ce truc-là. Mm-hmm. » Et en fait, c'est l'envie commune qui crée le jeu. Le jeu-là. Typiquement, il y a quelques temps, je fais des jeux avec Christina Kouf, qui est illustratrice à la base, mais qui aime bien le game design et qui avait envie d'en faire, etc. Donc on a fait un premier jeu ensemble, et puis après on en a fait un deuxième, etc. Et là, on a créé un jeu qui s'appelle « Thé ou café ?» C'est un proto, pour l'instant je ne vais pas. Je pense que je ne l'aurais jamais fait tout seul, et je pense que Christine ne l'aurait jamais fait toute seule.
Okay.
Il est vraiment né d'une discussion on a joué à tel jeu qui nous a bien plu, il y a tel truc qu'on aime bien, mais. Et en fait, le jeu il est né comme ça, et en vrai, pendant longtemps, j'arrivais pas trop à avancer ce jeu parce que je n'aimais pas ce genre de jeu. En fait, des fois tu crées le truc, parce que naturellement, au fil de la discussion, au fil des itérations.
Il y a un truc logique qui
se met en place. Ça doit devenir ça.
Ouais.
Et tu te retrouves devant un truc, tu dis, bon, j'ai pas envie de jouer à ce truc. Voilà. Mais bon, après, tu y joues. Et là, dernièrement, on a vraiment trouvé, je pense, le truc qui fait que le jeu est chouette et on a vraiment envie d'y jouer. Donc, des fois, tu vois, des fois, l'envie du jeu, elle est là dès le départ et elle reste.
Ouais.
Et des fois, par des concours de circonstances, quelque chose est clos. C'est pas ce que t'avais prévu, pas ce que t'avais envie, mais en continuant de le triturer, ça commence à devenir quelque chose qui t'intéresse et faire vraiment un jeu qui te plaît au bout d'un moment. C'est assez marrant cette manière, mais ça ne vient que de la création à deux, en fait ça ne peut pas marcher tout seul, c'est quand t'es à deux que c'est ce genre de truc. Mais c'est assez marrant de voir cette chose naître, c'est cool.
Et du coup, c'est quoi tes mécaniques préférées?
En fait, moi j'aime bien dire que les mécaniques de jeu, c'est des outils, en fait c'est notre boîte à outils. Et tu vois, il y a vraiment un truc, c'est mon exemple préféré, en fait t'as dans Stupid Vautour, c'est un jeu de cartes, et si en cas d'égalité, les cartes s'annulent et on voit la carte d'après. Ben, c'est une mécanique, en fait, et c'est un outil dont tu peux te servir dans tes jeux. Et pour moi, les mécaniques, c'est des outils. Mm-hmm. En vrai, on s'en fout un peu, du moment que ça fait ça génère l'émotion que tu as voulu créer avec ton jeu. Après, il y a des trucs qui sont plus ou moins plaisants, c'est brasser des dés, c'est toujours chouette. Toi, il y a toujours ce côté... moi, j'aime bien... Toi, au début, vraiment, j'avais cette idée, je fais des jeux... Et je pars d'un... Toi, quand j'ai fait Monstropholis, Miss Monstre... Monstropholis, je me perds dans les noms de protons. Je me suis dit, allez, je fais un truc avec de la pâte à modeler. Parce que j'avais vraiment à chaque fois envie d'utiliser quelque chose d'original, quelque chose qui n'existe pas, etc. Mais les mécaniques de base, elles sont quand même cool aussi à exploiter, en fait. Le deck building, le back building, il y a plein de trucs chouettes. Mais je n'ai pas vraiment de mécanique préférée. Okay. Moi, j'aime bien... Il faut que le jeu, il me raconte un truc chouette. C'est ça qui est important. Et après, la mécanique, elle sert juste à y arriver. C'est un moyen, en fait. Parce que tu vois, un des premiers jeux aussi que j'ai fait, c'est Cash and Guns, où l'idée c'est qu'on se braque avec des pistolets, on est des gangsters et on rejoue un peu la scène de Reservoir Dogs où ils se boitent les uns les autres, etc. On sait pas qui va tirer, qui va faire quoi. Et je me suis dit, c'est ça que je veux qu'on vive autour de la table. Avec quoi,
comment j'atteins ça.
Et après, c'est devenu un jeu, c'était des cartes. Je bluffe, je bluffe pas, je peux tirer qu'un certain nombre de coups, faut que j'économise mes balles. Et puis après, c'est la mécanique, elle n'est pas hyper originale, en fait, elle n'a pas vraiment d'intérêt. C'est juste que c'est ce qu'elle va générer autour de la table qui est chouette. En fait.
Donc tu pars plutôt de ça que de la mécanique.
Ouais, c'est vraiment. Des fois, la mécanique, elle induit un truc chouette. De se dire, vas-y, autour de la table, il y a un nombre de trucs à récupérer, mais il y en a moins que de joueurs, donc à quel moment je prends mes trucs. C'est déjà un peu une mécanique de jeu, mais c'est aussi une ambiance que tu crées. Mais c'est vraiment le cœur du truc, c'est qu'est-ce qui va faire marrer les gens, en fait. Des fois, je me dis, dans ma tête, je me dis, voilà, c'est quoi qui est amusant ? Avec l'air le plus sérieux du monde, c'est quoi qui est marrant, là ? Qu'est-ce qui nous fait rire ? Qu'est-ce qui nous amuse ? Et c'est ça qui est, l'objectif, c'est ça, c'est... Dans le jeu, il y a eu ce moment-là qui était drôle.
Cette
ça,
scène-là, ce moment-là, ça, je veux l'atteindre.
Il faut qu'on y arrive. Ah, après, c'est les mécaniques, drôle. Elles servent à... En fait, tu t'en sers pour amener les gens... Toi, t'es un escroc, tu vois. En fait, tu vas faire jouer à un jeu. Là, en fait, je vais...
T'es un manipulateur.
T'es un manipulateur. T'es un auteur de jeu, t'es un manipulateur qui cherche à ce que les gens...
Ils fassent un truc très précis.
Et ils vont croire que c'est eux qui l'ont fait. Et pas du tout.
Ouais, c'est vrai, c'est cool. Il les a amenés à faire ça. Un peu comme un scénariste.
Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, en fait, auteur de jeu, je trouve que c'est assez proche de scénariste, en fait. Tu vois, il y a ce rapport-là parce que... Toi, l'auteur de jeu, c'est un peu le scénariste, l'éditeur, c'est un peu le réalisateur.
Ouais.
Et c'est lui qui met en forme, qui fait venir l'illustrateur. Ben, l'illustrateur, c'est un peu le décorateur ou le directeur photo qui met l'ambiance.
Directeur
etc.
photo, voilà, c'est l'illustrateur,
peut-être. Ouais, c'est ça. En fait, on est vraiment un peu dans ce schéma-là, en fait.
Ouais, c'est clairement. Cool.
Et voilà, les mécaniques de jeu, c'est des outils, en fait. Il ne faut pas les voir autrement. Ouais. C'est juste.
Oui, parce que en fait, une mécanique une même mécanique dans deux jeux différents peut être vécue totalement différemment.
Exactement. Et c'est
et toi, être plus ou moins simple.
Typiquement le genre de conseil qu'on donnait à la conférence d'hier. On leur donnait, en fait, en conclusion, on leur a dit, faites des protos, en fait, c'est comme en se plantant qu'on y arrive. Des conseils aussi qu'on donnait, c'est de reprendre des jeux qui existent déjà, changer des trucs, de retravailler dessus, et notamment extraire une mécanique. Et changer le thème, en faire autre chose, et tu t'aperçois que
ça va être
complètement différent, même si c'est la même mécanique qui sort. Et voilà, c'est jamais que les outils à utiliser. Oui. L'important, c'est qu'est-ce que tu veux faire vivre aux gens.
C'est comme ça que des fois, on a des modes de mécanique.
Ouais.
Et que tout le monde y trouve son compte, dans le sens où on peut sortir plein de jeux.
Et tu vois, on a eu beaucoup de roll and write pendant un moment.
Les gens disent
Ah, j'en peux plus des roll and write, mais en fait, on s'en fout, c'est une manière de faire. Ce serait des tuiles qu'on pose sur la table, tu dirais pas, j'en ai marre, tu vois. Enfin,
d'ailleurs, à un moment, moi, je disais, non, moi, je n'aime pas trop les roll and write. En fait, si, j'adore. Il y en a plein que j'aime trop parce que
ça dépend.
C'est carrément ça. Et du coup, tu parles de ce que ça fait vivre. Et c'est marrant parce qu'en fait, tu parles pas forcément de jeux narratifs dans tes exemples-là.
Ouais.
Donc, c'est vrai qu'un jeu fait vivre quelque chose, même s'il te raconte pas. Enfin, il te raconte une histoire, même si elle est pas.
Elle est pas écrite. Ouais, en fait, le jeu narratif, il y a un petit côté. Encore plus triche, c'est qu'en fait, on dit tu vas vivre une aventure, puis regarde, je te la mets sous les yeux.
Ouais,
c'est ça que tu dis, ok, ouais, c'est bon. Mais normalement, tu es censé de toute façon vivre une aventure quoi qu'il arrive. En fait.
Ouais.
Mais voilà, le jeu narratif, c'est un peu, on disait tout à l'heure, avec la mécanique de jeu, je te force de manière un peu en loose day à te faire vivre des trucs. Là, le narratif, il te dit vas-y, tu vas vivre ça, regarde, c'est marqué, t'as pas le choix. Je vais vivre ça. Cool. Mais c'est un peu facile, entre guillemets. Pas vraiment facile de faire des jeux narratifs. Mais c'est la même idée en fait, sauf que là on te met sous le nez quoi. C'est ça que tu vas faire.
Ouais, c'est ça.
C'est un peu plus les jeux classiques le font déjà en fait, mais de manière un peu plus subtile.
Ouais, c'est ça. Bon, après il y a des jeux plus ou moins qui te font vivre des choses plus ou moins
Mais tu vois, tu dans un jeu abstrait vraiment blanc contre noir, cube truc, tu vas pas vivre une histoire, mais tu vas vivre quelque chose avec ton adversaire.
Bien sûr.
Quelque chose va se créer sur la table, il y a des situations qui vont être régénérées et qui vont te faire réagir de telle ou telle manière. Et c'est pas forcément le jeu en lui-même qui vit l'histoire, c'est toi avec ton adversaire.
C'est ça.
C'est ça qui est cool.
Le jeu est vecteur de création d'émotions sociales. C'est sûr. Et est-ce que t'as un jeu favori de tous les temps ? Madeleine de Proust. C'est
pas tant. En fait, ça dépend vraiment des périodes. Pendant longtemps, j'ai répondu que mon jeu préféré, c'était TTA. Cozy Edges, qui est un jeu Yellow.
Tout à fait.
parce que j'y ai beaucoup, beaucoup joué, et pas forcément en physique. Mais
d'ailleurs, Vlada est à Cannes.
Ah oui, c'est vrai, exact. Ouais. Ouais, tout à fait. Enfin, il passe sur le... Il faudra que j'essaye de le croiser. c'est vraiment un jeu que j'ai énormément joué en ligne, parce qu'il a beaucoup de matériel, beaucoup de manips, et il est un peu relou à jouer en vrai. Et c'est un jeu très long. Donc, j'y ai beaucoup, beaucoup joué. J'y m'y suis remis récemment, d'ailleurs. J'ai fait plein de parties. plus récemment, c'est vraiment le jeu que j'ai le plus joué et le plus aimé, c'est Terraforming Mars.
Ouais.
Pareil, il raconte une histoire différente à chaque fois. C'est vraiment un très très chouette jeu, malgré, et encore une fois, malgré tous ses défauts, le jeu n'est pas parfait. Mm-hmm. Et c'est ça qui est énervant, souvent, parce que le jeu a plein de défauts, mais tu l'aimes quand même. Ouais. Pourquoi ils ont fait comme ça? Terraforming Mars, à la fois parce que c'est un chouette jeu,
ouais.
à la fois parce qu'il te fait vivre des histoires différentes à chaque fois, et à la fois parce qu'en week-end jeu, avec les copains qu'on retrouve 2-3 fois dans l'année en week-end jeu, c'est à ce jeu-là où on joue et on est content de se retrouver et d'y jouer. En fait. Donc ça, c'est un très cool jeu. Mais voilà, il y en a plein par période, en fait. Je ne suis pas vraiment un jeu emblématique, un coup de
cœur ouais,
que
ouais.
j'adore.
Et ton dernier coup de cœur?
En vrai jeu. En fait, le truc, c'est
en
que...
vrai
non,
jeu.
Non, mais c'est ça, parce que le problème, c'est, voilà,
t'as
c'est
qu'on joue beaucoup à des protos, proto, en fait. Ouais.
Donc, on joue entre nous à nos
après,
protos
ça
à la
peut être un proto, à la limite, tu peux nous dire.
Ouais, mais après, je peux dire... Qu'est-ce que j'ai joué? Bonsoir. On va couper là tout.
Oui.
Donc en vrai, non, les derniers coups de cœur vraiment qui m'ont. Il y a eu plusieurs jeux là, coup sur coup, qui m'ont bien plu. Je vais encore faire de la pub pour Yellow. Il y a Ready Set Bet qui est excellent. Ouais. Et là, pour le coup, toi, on a un petit peu ce côté. Les jeux, c'est un peu toujours pareil.
Ouais, là, c'est une expérience différente.
Des jeux de course, il y en a déjà eu. Des jeux de paris, il y en a déjà eu. Et celui-là, il réussit à tout mixer bien.
Tu vis un truc, quoi.
Ouais, mais là, en fait, Ready Set Bet, on est levé, on est debout. On fait, ouais, vas-y, je suis lui. Oh non, je peux plus, qu'est-ce qui se passe? Voilà, Ready Set Bet, ça crée vraiment une chouette ambiance. J'aime beaucoup ça.
Ouais.
En fait, tu vois, typiquement, ça fait partie. Là, moi, comme je disais, je suis beaucoup entre Valence et Dijon.
Ouais.
Du coup, je suis beaucoup moins à Dijon. Et je fais un peu plus trop de soirées-jeux avec les copains dijonnais, on se voit moins, et donc j'achète moins de jeux à Dijon. Mais j'en achète quand même quelques-uns dans l'année, et donc là, Ready Set Bet, ça fait partie des jeux, ça, il me le faut, il faut que je l'aie, en fait.
Ouais.
Parce que ça, c'est vraiment très très cool. Challenger, c'est vraiment très bien aussi,
ouais.
qui a gagné l'As d'Or initié l'année dernière, c'était l'année dernière, Challenger ?
Oui, ouais. oui, c'était l'année dernière.
Et là, il y a eu le Challenger 2 qui est sorti, qui est vraiment très chouette.
Mm-hmm.
Ils ont réussi à corriger les petits trucs qui gênaient dans le 1. Donc, super bon boulot. Et puis, le jeu est très cool. Et toi, c'est un jeu de partie. On joue à nombreux, on joue à 6, on peut même jouer à 8. Voilà, on s'affronte, on fait des tournois et tout. Mais à 2, ça marche super bien aussi, en fait.
Ouais, ouais.
2 joueurs, le jeu fonctionne
oui,
très,
bah
très
oui,
bien.
Oui, complètement. Et c'est agréable aussi duel, en fait. D'être ouais. avec la même personne
fait, ouais.
pour
ça
faire
ça
évoluer
fait,
son truc.
On ne voit pas la même chose, ça ne joue pas pareil. Mm. Donc, ouais, non, mais Challenger, super bon jeu. Excellente idée, vraiment... Toi, quand ouais. le jeu sort et tu dis,
l'idée, elle est évidente. Ouais. Ouais,
et vraiment, toi, c'est typiquement, c'est la bataille. Quoi. On joue la bataille, mais il y a plein de trucs chouettes rajoutés par-dessus.
Ouais.
Et voilà, moi, ouais, Challenger, dans les derniers jeux que j'ai joués, c'est vraiment le jeu qui m'a fait dire, oh, j'aurais aimé avoir l'idée.
Ça te fait souvent, ça.
Bah, ça ouais, des fois, ouais, il y a des jeux, il y a des jeux, des fois, qui sont un peu des déclinaisons mécaniques de choses qui existent déjà. Et tu dis, ok, ouais, c'est.
Oui, oui, oui.
C'est bien fichu, mais l'idée est pas ouf, quoi, tu vois.
Mais et des fois, il y a des twists comme ça.
Ah, c'est super bien, ça, c'était ça, c'est ça.
Ouais. Ouais, quoi.
Et tu vois, je l'ai aussi sur le jeu de pli qui est nommé au Initial As d'Or.
Oui, Cat in the Box.
Cat in the Box qui tient sur.
Ouais.
C'est un jeu de pli, tout
sans
les cartes
couleur.
Sont noires, et
ouais.
tu dis
ouais.
à pleurs quand tu joues.
Ça, c'est... Ouais, en effet, ouais, c'est brillant. Ouais.
Enfin,
c'est
clair. Ça, c'est ouf.
Bah, de toute façon, tous les jeux qui se pitchent très rapidement ouais. comme ça, tu te dis qu'il y a un truc quand même évident. Ouais.
Et c'est ce que je me dis aussi, tu vois, typiquement quand je fais mes protos, je me dis avec quelle phrase
je peux comment je le pitch ouais. Ouais.
Et si vraiment en une phrase, je te dis, carrément. Je te définis le jeu et je t'accroche sur le jeu, c'est que vraiment il y a un truc.
Et en tant que communicante, moi je suis chaud pour ça.
Donc voilà, ça c'est vraiment les dernières découvertes qui m'ont dit, ouais, ça il me les faut ces jeux-là, je les veux, même si je joue pas tant que ça à la maison, même si on joue moins souvent, c'est des jeux que je veux avoir sous la main.
Ouais.
Voilà. Dernière découverte.
Cool. Et tu joues quelle couleur?
Mais je joue violet.
Ouais.
Voilà. S'il n'y a pas violet, je peux jouer rouge.
Ouais.
Ou orange, mais une couleur un peu bizarre. Ou alors je joue couleur bizarre. Voilà. Violet, c'est la plus bizarre. Après rose, tout ce qui n'est pas classique.
Okay.
Et sinon, si vraiment on joue un vieux jeu à l'allemande où il y a bleu, rouge,
vert,
ouais. je joue.
Ok. Parfait. Merci beaucoup, Ludo.
Je t'en prie.
Merci à Ludovic d'avoir joué le jeu de l'interview. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines avec une nouvelle invitée. D'ici là, je vous souhaite de joyeuses parties. Ciao! Et pour plus d'informations sur Yellow et nos jeux, je vous invite à consulter notre site internet yellow.fr ou nos réseaux sociaux. YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, Twitter, on est partout.